Enfin, vous avez trouvé la maison de vos rêves. Maintenant, il vous faut négocier l'hypothèque.
Tout ouvert ou fermé?
Quel prêteur choisir?
Où avez-vous mis le numéro du notaire déjà?
Ah oui, l'assurance hypothécaire en plus. Concentrez toutes ces étapes en un seul endroit. Votre conseiller.net. Du notaire aux assurances, évitez de vous y perdre. Nous vous accompagnerons dans votre processus d'acquisition avec un réseau de professionnels multidisciplinaires. Gagnez du temps et retrouvez tout sous un même toit. Votre conseiller.net. Une équipe jeune et dynamique, signée Yann Sénéchal.
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. Radiotalbot@gmail.com. Radio Talbot est une présentation des Brasseurs illimités et de la bière Simple Malte. Mougodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mougodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CPC, votre référence pour votre solution informatique.
Comment allez-vous tout le monde? Mon nom est Denis Talbot et pas vous. J'espère que vous êtes en forme. Gros show ce soir, mesdames, messieurs. Un show retrouvaille. Oui, il est de retour au bercail. Il a compris, mesdames, messieurs. Il est jeune, il est beau. On l'aime. Vous le chérissez. Mesdames, messieurs, j'ai nommé Benoît Mercier.
Hello, hello.
In the house. Comment ça va?
Ça va bien, toi? Ben, moi aussi, je suis content d'être de retour.
Ah ouais,
dans la fois, c'était le 26 mai, Denis.
Écoute, je sais, t'es parti vers d'autres contrées.
Oui.
Explorer différentes avenues.
Oui. Des belles anecdotes.
T'as aimé ça, hein?
Ah, j'ai vraiment trippé. J'ai travaillé pour Fantasia cet été, le festival de films de genre. Et écoute, j'ai fait de très belles rencontres.
Oui.
Éventuellement, je pourrais vous en parler.
On va en parler tantôt. Je vais en parler absolument.
Okay,
le temps de vous présenter mon prochain invité, mesdames, messieurs, qu'on a vu déjà via Skype, via Zoom. C'est M. Louis-Félix Cochon, qui est le big boss de... De quoi exactement?
Jeux Boréalis.
Jeux Boréalis, ouais. Et aussi tu es président de la
Guilde, oui, mais démocratiquement.
Oui, ça a été...
C'est les gens qui votent pour nous autres, c'est pas moi, la Guilde.
C'est cool, non, c'est ça. Est-ce que c'est un titre à vie?
Ou non, c'est annuel? Non, c'est des mandats de 2 ans.
OK, est-ce que tu...
Là, je tombe pas en élection, là, on va avoir une assemblée générale le 23 septembre. Okay. Je tombe pas en élection, l'autre après ça, ben les gens vont avoir de me mettre dehors.
Est-ce que la relève est bonne?
Ah oui, c'est écœurant.
Ouais.
La Guilde, ça monte. D'ailleurs, je voyais ton annonce de CIPIC tantôt, c'est le fun. On vient juste en primaire d'ailleurs, on vient juste de signer un deal avec CIPIC. Tous les membres de la Guilde et les employés ont des rabais pour leurs ordinateurs chez CIPIC depuis à peu près 2 semaines.
Ça fait presque 15 ans que je deal avec eux autres.
Ben oui, ils m'ont dit ça. Ah
ouais. Puis c'est pas des blagues. Genre, qui a toujours été correct avec nous autres. On commençait, j'avais pas d'ordinateur 1 semaine avant de faire Monsieur Net, OK?
Okay.
Ce gars-là, il ne me connaît pas, ni Dev ni d'Adam. Il me connaît peut-être parce que je faisais les aventures du Grand Talbot.
Une semaine, c'est la dernière minute un peu, oui.
Ben, c'est parce que nos boss, à l'époque, on les salue bien d'ailleurs,
salut, les pauvres.
Avec qui avait une vision incroyable de la télé. Ils m'ont dit, tu veux faire ton show, trouve-toi des ordi, moi je mets pas une scène là-dedans.
Hein?
Bang! C'était ça. Alors, je suis allé voir Jacques, j'ai dit, écoute, je me présente, je te connais un peu, salut Claude Rajotte. il dit, j'avais besoin de 4 ordinateurs, en fait, 8 ordinateurs, 4 pour notre bureau en haut pour faire nos tests, puis 4 autres au plateau, pas tout le temps, tu sais, des plateaux.
Ouais.
Il m'a dit, je t'arrange ça, puis écoute, 3-4 jours plus tard, on avait nos ordi. Mesdames, messieurs, c'est Jacques. C'est Jacques, on l'applaudit.
On salue Jacques.
Ouais, bravo Jacques.
Merci,
très, très bien. C'est un autre fier commanditaire de l'émission Radio Talbot, d'ailleurs, qui nous aide. Mais bienvenue également à tous ceux et celles qui viennent de découvrir l'émission, que ce soit par les médias sociaux, que ce soit par Twitch ou encore...
La gang de Boréalis.
Boréalis qui sont là. Oui, oui. Sont-tu là ce soir, ta gang?
Ben c'est sûr.
Ah, ben,
on a passé
c'est
le message.
Cool, c'est bien cool. Soyez là. Puis je tiens à vous lancer un message à vous autres, les créateurs de jeux, les faiseurs, les artisans du numérique. Quand vous faites un jeu, Vous êtes trop gêné pour me voir. Parlez-en à Louis-Félix. Puis Louis-Félix, ils vont venir faire un tour. Ils vont me dire, regarde, ils vont m'appeler. Regarde, eux autres sont bons, sont prêts à présenter le show. Des fois, c'est gênant. On est bon faire des jeux. On est moins bon peut-être pour jaser en avant les Kodak. Mais vous avez un bon porte-parole.
Oui, puis écoute, avec Denis, il n'y a rien de gênant. Là. Ben tu peux pas être plus à l'aise que ça. Écoute,
donne une bière en plus.
Donne une bière en plus.
Une excellente Simple Malte.
Exactement. D'ailleurs, ce soir, qu'est-ce que tu prends, toi, là, mon vieux?
Eh bon, attends, c'est la blonde d'Abbaye d'Oka.
Exactement. Et,
succulente.
Monsieur, succulente. Et vous, monsieur, vous prenez quoi ce soir? Effenweizen.
Effenweizen.
Effenweizen, du bis allein in Berlin. Nein, ich bitten mit de Kinder. Et moi, je prends une bière belge ce soir.
Tu dis quoi pour vrai?
Je sais pas. J'ai trop content,
écoute pas. Non, j'ai pris des cours d'allemand au cégep parce que je trouvais la fille cute. Mais ça n'a rien donné. Mais, Mais je suis capable de me promener en Allemagne et de dire que je connais grand-papa et je mange du chocolat. Fait que c'est correct, hein? On ne sait jamais où ça peut venir. D'autre part, belle campagne de promotion qui est commencée par nos amis d'Ubisoft pour faire justement la promotion d'un jeu qui s'appelle Watch Dogs. Aujourd'hui,
un tout petit jeu,
presque pas de moyens. Donc, aujourd'hui, j'étais en train de fouiller sur Internet quand tout d'un coup, j'entends le ding. Qu'est-ce que c'est?
Diantre.
Un courriel. J'en reçois pas beaucoup.
Non.
Je regarde ça. Oh, ça vient de DeadSec. Qu'est-ce que c'est, DeadSec? C'est comme Anonymous, mais dans le jeu du Big. Regarde bien ça, ce que ça donne.
Citizens of Canada. We come with a message that demands your urgent attention. We are DeadSec. We formed to fight for your freedom and against all those who threaten it. We're here to warn you of an immediate threat, an invasion of our privacy. Home, a connected living project powered by Bloom, will soon be arriving in Canada. They are selling the dream of a fully connected home that will make Canadian lives easier and safer. Home is beautiful. But it is a beautiful lie. This dream will soon become our nightmare. Home, where your television watches you. Where your walls have ears and your furniture tracks your every move. Home is not designed to make your life better. It is designed to infiltrate the last refuge of your privacy, your home. Citizens of Canada, don't be fooled. Home is watching you. Now more than ever, we must centralize our efforts. We urge you to become part of our Canadian hub. This is the secret place where we join forces. Together, we will imagine and design tools to recruit allies and to spread the truth. Visit the Canadian hub today, and we will take down home. Together, we are stronger. Together, we are safer. Together, we are DeadSec. Join the DeadSec Canada hub.
J'étais curieux.
Oui.
Je me suis dit, diantre, qu'est-ce qui se passe? On se fait envahir? Y a-t-il vraiment quelque chose qui se trame? Je suis allé faire un tour sur la page web de ce produit, de cette firme, mesdames, messieurs, qui vend des trucs pour des maisons connectées. Et j'ai vu ceci, cette page web qui a l'air tout à fait innocente, dans laquelle on peut apprendre que cette compagnie offre des trucs vraiment fantastiques au niveau de l'équipement de la maison. Tu peux brancher ton cellulaire, mais aussi tu peux brancher ton frigo, te promener avec une belle fille qui regarde son téléphone, la domotique, partout. Il y en a même que de la télé dans le frigo, dans ta porte de garage.
Mais là, je pense, Denis, que c'est pas une vraie compagnie.
Penses-tu vraiment?
J'ai un soupçon, moi, que c'est pas une vraie compagnie.
Mais c'est pas ton rêve, Benoît.
Ouais. Écoute, tu brises tout justement la magie, là. Non, mais écoute, c'est bien fait. Ça fait penser un peu ce genre de campagne-là à ce qu'avaient fait dans le temps nos amis de chez Eidos Montréal avec les produits des bras augmentés, la bonne compagnie
multinationale.
Doucex dans le temps. C'est un peu la même chose. Mais là, regardez bien la famille. Hey, regarde ça, ça fait-tu cheesy un peu? C'est le genre d'affaires qu'on voit régulièrement sur le web, par exemple. Hop, là, tu viens de voir, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Puis à un moment donné, il y a un petit glitch. Quand tu fouilles un peu, là, tu cliques ici. Là, tu te ramasses dans le backdoor. Oh, yeah! Là, tu te promènes.
On hack le monde.
Ouais, là, on a hacké le système. Puis là, il y a un paquet d'affaires. Tu peux te promener. Il y a quelqu'un de Facebook qui m'a envoyé un message en même temps. Tu vas te hacker. Non, là, tu peux te promener là-dedans. La souris, elle fonctionne, oui. Donc, je peux vraiment, regarde, me promener dans le site. Cliquer, c'est des affaires. Il y a des bebelles qui vont partir. Il y a des messages cachés. Il y a toutes sortes d'affaires. C'est vraiment bien fait. Mm. Et le site est bien, 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 bien structuré. Il y a du stock en masse, des indices, toutes sortes d'affaires. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur cette campagne-là. On peut même déposer ces espèces d'interprétations, nos créations à nous. Welcome to the Resistance Support, your favorite pieces. Bienvenue dans la Résistance. Votez pour votre création préférée. Donc, tu peux voter pour des affaires là-dedans. C'est très cool. Jetez un coup d'œil là-dessus. Le jeu s'en vient très prochainement. J'ai hâte d'y jouer.
Très bonne campagne.
Je trouve que c'est bien fait. Honnêtement, là, c'est très bien fait.
Bravo, Ubisoft.
Chapeau à nos amis d'Ubisoft. D'ailleurs, il y a une bêta qui s'en vient pour un jeu que j'attends beaucoup. Et on m'a demandé de faire partie des testeurs. Et j'aurais le droit d'avoir trois amis avec moi. Là,
vous êtes bien mieux.
Alors, je ne sais pas sur quoi le jeu encore. On ne m'a pas dit le jeu encore. Mm. Je le sais, mais je n'ai pas le droit de le dire tout de suite. Mais je vais avoir trois amis.
Cligne des yeux, les lettres de l'alphabet.
Un petit morceau.
Ouais. Ah, ouais.
Ouais.
Ils vont en faire un autre.
Non, mais c'est le premier.
Ah, OK. J'étais un peu rouillé sur mon code morse.
Hey, à part ça, c'est le 50e anniversaire de Star Trek. T'es-tu content, Ben?
Je suis très, très content. Moi, je suis surtout content qu'il y ait une nouvelle série qui s'en vient, Denis.
Oui, ça, j'ai hâte.
Tournée à Toronto, juste à côté. D'ailleurs, on a quelques nouveaux détails. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu le dossier, mais semblerait-il que ça va se passer dans les années avant le premier voyage de l'Enterprise, celui de James T. Kirk.
Donc, avec une technologie plus rudimentaire.
Entre Enterprise, le dernier, série avait fini comme en 2005-2006, qui n'était pas très, très fameux, c'était pas une super de bonne série, et l'original series. Donc, c'est un genre de prequel, un antépisode, mais parrainé par Brian Fuller, qui est un gars qui fait beaucoup de télévision. Il a en fait Hannibal, il travaille sur American Gods. Puis le gars, c'est un Trekkie. Il a réuni des gens qui ont déjà travaillé sur Star Trek dans le passé. Fait qu'on veut vraiment revenir aux bases, à la source. Puis je trouve ça le fun que justement, pour le 50e anniversaire d'une des plus grandes franchises de science-fiction au monde, bien, on ramène Star Trek. Ça fait 10 ans là, qu'elle n'est plus à la télé. C'est le temps.
Donc, ils perdent pas de fans, eux autres. Là.
Non, ils vont en gagner. Là.
Ils vont en gagner.
Ouais. D'ailleurs, on a annoncé la semaine passée, mais il y a quelques semaines, qu'il va y avoir une série de livres et de comics qui sont déjà prévus pour faire ce qu'on dit en anglais, des tie-ins avec la nouvelle série qui s'en vient. Ça va être au mois de janvier. Premier épisode sur CBS. Et la suite va être sur CBS All Access, qui est l'équivalent Netflix, malheureusement, de
qu'on n'a pas accès.
Qu'on peut pas changer, même si on aurait un VPN. Je ne connais
sûrement
pas ça.
Sûrement quelqu'un
là.
Qui a un truc.
Non, on peut plus voyager. Te transporter à San Francisco, comme on a déjà fait. J'ai entendu dire que quelqu'un faisait ça. Là,
on
je
peut
sais pas.
Faire ça, semblerait-il. Moi, je n'ai jamais fait ça personnellement.
Non. D'ailleurs,
fais pas... sauf que si c'est un VPN public, malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'ils ont trouvé la
faille.
Twist.
Ah, bon.
Il faudra avoir un casier postal aux États-Unis.
Oh.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est vrai.
Juste parce que tu me fais signe de faire ma...
Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai des contacts aux States.
Ah, OK.
Mais écoute, regarde la belle photo de famille. Ça, j'ai vu ça aujourd'hui. Ça me rappelait des souvenirs. J'étais un peu nostalgique. Regarde ça, c'était cool.
Hein?
Combien il reste de vivants là-dedans?
George Takei, bien sûr.
Attends, la madame...
Nicole Nichol qui est là.
Oui, c'est la première noire à donner un bec à télé.
Légende urbaine. Ça a déjà été fait avant.
Ah oui?
Sauf que c'était dans les premiers qui a été diffusé, mais ce n'est pas le premier baiser diffusé.
Premier baiser dans Star Trek.
OK. Mais justement, dans la nouvelle série, on veut revenir à cette idée où Star Trek est une série qui est progressiste, qui veut pousser des nouvelles idées. Donc, des personnages qui vont être finalement gay dans Star Trek.
On l'a vu. On l'a vu dans le film, d'ailleurs.
Oui, dans le film, l'univers télévisuel, il n'y a pas vraiment eu ça, sauf Deep Space Nine un petit peu. Là, on veut vraiment repousser l'enveloppe. Tant mieux, ça a tout le temps été ça, Star Trek. Pousser l'humain, le côté humaniste de l'humanité. Mm-hmm. Donc, j'ai bien hâte de voir ça pour le 50e anniversaire.
Te souviens-tu du premier épisode, le pilote?
Je n'étais pas encore dans les...
Non, mais as-tu vu le premier épisode?
Sur Netflix, je suis en train de me retaper tous les classiques et je me garde l'original series pour la fin de mon marathon. Donc, c'est comme la série sur le Sunday.
Okay.
Là, je finis Enterprise, qui n'est pas la meilleure série en ce moment, juste pour passer à travers le plus pire. Là.
Mais
après, non, je vais recommencer à réécouter.
Ça, c'est le deuxième pilote. Ça. Regarde ça, les moyens technologiques n'étaient pas...
On est loyé à la caméra de l'image, probablement.
C'est ça. Et puis, pas trop vite, là. Il y avait un gars assis sur une chaise à roulettes.
Il tourne à gauche. Là. Wow.
C'est ça. Et il fait un panne. Mais écoute, c'était quelque chose, le tout premier épisode avec, comment il s'appelait, le colonel Pike?
C'était le Captain Pine.
Pine ou Pike?
C'est Pine, il me semble.
Peut-être. Celui qui est dans une espèce de fauteuil roulant.
Fauteuil roulant, mais on l'a ramené dans le film de Star Trek de 2009 aussi. Là. C'est Pine ou c'est Pine? Hey, j'ai un blanc de mémoire.
D'abord, je vais chier un coup d'œil.
Le monde qui nous suit, ils vont googler ça.
Oui, exactement. Donc, ça vous tente de jeter un coup d'œil, c'est cette année, les coffrets sont en vente un peu partout sur StarTrek.com, il y a du stock à vendre comme ça se peut pas. Il y a même des gilets rouges, des gens qu'on voyait disparaître à un moment donné. Regarde ça, le lettrage, hein?
Pike.
C'est Captain Pike.
Ouais.
Hein? Pas pire, le vieux.
Yeah.
Oh, yeah.
Un point pour...
Donc, un point, un morceau de Talbot pour moi-même. Mm-hmm. William Shatner, tout ça, toute la gang. Et puis, Spock, avait, au début, avait des airs un peu diaboliques. Fait que les gens avaient peur. Ouais. La censure, c'est
il dit. Riait aussi, ouais. Souriait. Tu sais que j'ai rencontré le fils à Lennon Nimoy cet
vrai?
Été. Ouais. Ah. Ça fait un type vraiment charmant qui lui présentait un documentaire sur son père.
Il ressemble
Il ressemble beaucoup.
Ah ouais.
Par
ah ouais.
moment, je parlais, puis j'avais des... OK, là, je comprends que c'est vraiment son fils. Il ressemble beaucoup.
Ah ouais. Ouais.
Mais vraiment sympathique, le bonhomme.
As-tu vu le film, le dernier film, toi?
Le dernier film? Bien, je n'ai pas eu le temps de le voir justement à cause que je travaillais cet été. J'ai
mais
beaucoup travaillé.
Ça,
L'état de ma barbe aussi le démontre. J'ai pas eu beaucoup de temps pour moi-même. Mais prochainement, là, je vais aller probablement l'écouter ou je vais attendre qu'il sorte en Blu-ray.
Ou sur Netflix.
Ouais, ouais, Netflix.
Un jour, peut-être.
Ça. Il s'en va arriver sur Netflix à un moment donné, c'est sûr.
Moi, j'aime ça, des belles surprises Netflix. Tu t'attends rien, tu Boom. T'assois sur ton canapé.
Oh, okay, il y a ça, ça qui est sorti.
Ouais. Ce que je fais à soir.
Luke Cage qui sort à la fin de l'été, la fin du mois aussi, fin de septembre. Ça va être incroyable. Il y a eu deux trailers, deux bandes annonces qui sont sorties depuis, puis c'est comme, oh, ça va être excellent.
Vraiment, ils ont fait plus hip-hop, un peu gang de rue, ils ont donné un petit ton.
C'était le personnage aussi à l'origine dans les BD. C'était un héros de la rue, c'était un héros. C'est les gens qui connaissaient aussi son identité, ce qui était pas trop courant à l'époque. Ils savaient que c'était Luke Cage, il était pas masqué. On l'engageait en fait pour aller faire des missions, puis tu vois, ils ont ramené ces éléments-là dans la bande annonce qu'on a vue. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil. Quand le personnage de Luke Cage sort de l'espèce de fameux tank d'eau dans laquelle il est plongé, il y a une espèce de médaillon avec des bracelets parce qu'il était retenu dans cette espèce de cuve-là.
Okay.
Finalement, c'est un clin d'œil au look du personnage
T'entends.
À l'époque.
Okay.
Parce qu'il y avait justement une espèce de tiara, il y avait des
petites fantaisies.
Des petits trucs comme ça. Puis j'aime ça quand les créateurs font ça parce que dans ce temps-là, j'ai l'impression qu'ils rendent hommage aux fans qui suivent la BD.
Exactement. Ah oui, absolument.
Ah, c'est le fun. Non, on n'a pas à se plaindre. Ça, Star Trek qui revient, Netflix qui continue. Il manque de temps, c'est ça le problème.
C'est
il manque
vrai.
De temps.
On va en parler rapidement. 30 secondes, Stranger Things. As-tu vu ça?
Moi, j'ai bien aimé ça.
T'as aimé ça?
J'ai bien aimé ça. Puis malheureusement, j'ai été surpris de la critique de certaines personnes qui disaient que la série ou l'intérêt de la série. Les gens disaient que l'intérêt de la série résidait sur. Ou s'appuyait simplement sur de la nostalgie, et je ne suis pas d'accord.
Moi non plus.
Je pense qu'il y a un élément là-dedans qui
absolument,
fait le succès de la série.
C'est artistique et bien soutenu.
Oui,
là,
oui, absolument.
Moi, comment je l'ai vu, c'est que c'est volontaire. Ils l'ont bien soutenu, justement, à aller chercher, mais très, très, très bien fait.
Puis subtil. Tu peux ne pas voir les hommages, puis ça suit
absolument.
La route facilement.
Tu manques rien quand même.
Non,
si tu connais pas toutes les ramifications des personnages, ça, c'est pas grave. T'embarques dans l'histoire.
Exactement.
Mais jetez un coup d'œil là-dessus.
Oui, absolument. Écoutez ça.
Oui, c'est bon.
Saison 2 qui s'en vient l'année prochaine.
Yes.
Vous dormirez pas de la nuit.
Là, je suis sur la deuxième saison de Narcos en ce moment,
okay.
Avec notre ami Escobar qui... ça va pas bien.
Moi, je connaissais comme trop son histoire. Fait que je
moi, je sais la fin t'sais. Parce que je connais aussi le personnage.
Ah, ben, ouais.
Ben,
ah,
oui,
ah,
ben,
OK.
Ben.
Il meurt ça à la fin?
Ben,
on va arrêter là. On s'est fait chialer une fois parce qu'on a dit que Jésus revenait. Là.
J'ai parlé aussi de la fin de Dracula. C'est un livre qui est sorti depuis 110
ans. On va pas là. On va pas là. Non, on va pas là.
Il meurt pas.
C'est un undead. Il meurt pas vraiment. Là. Ça dépend de ton point de vue.
Bon, OK, d'accord.
Tant qu'il arrive d'autres livres.
D'autre part, tu es allé faire un tour au PAX, au
monsieur
le président
West.
De Borealis. C'est quoi ça, le PAX? Rappelle aux gens
PAX
ce que
West.
C'est.
Ben, l'abréviation, c'est
Penny Arcade
Penny
Expo.
Arcade Expo. Yeah. Exactement, qui est une BD d'abord, mais que c'est devenu comme l'endroit, c'est une espèce de grosse convention de jeux vidéo. Donc, il y en a deux principaux que les gens de Québec vont, le PAX East et le PAX West. Avant, PAX West s'appelait PAX Prime, mais depuis cette année, ça s'appelle PAX West parce qu'il y avait plus de monde à PAX East cette année qu'à PAX Prime, donc ça change un petit peu. Fait que pour les fans, écoutez, il y a toutes les grandes compagnies, comme les indépendants qui sont là. Là, on parlait, il y avait justement Blizzard Activision qui était là, Ubisoft qui était là, BioWare qui était sur place. Nommez-la, il y
avait
des machines de Minecraft.
Comparable un peu au E3 ou...
Non, pas vraiment. C'est beaucoup plus accessible.
Okay.
E3, quand j'avais essayé d'y aller pour avoir un 20 par 20, ça me coûtait 10 000 $ juste le terrain. Là, eux, c'est 3 000 $ Donc, on divise par 3 les coûts.
C'est quand même abordable pour une compagnie.
C'est plus abordable, oui. Absolument.
Une compagnie comme Sony qui avait des kiosques ou Microsoft qui ont des kiosques immenses, on parle-tu de millions de dollars pour 3 jours?
Oui, absolument. Puis, dépendamment de la structure aussi, juste faire accrocher quelque chose dans les airs, une banderole, c'est 4 000 US pour payer l'union pour la faire accrocher. Mais là, je t'ai pas dit du prix pour l'amener du camion et l'amener aller sur place.
Parce que t'as pas le droit de faire ça.
Non, non, t'as pas le droit de faire ça.
C'est Teamsters qui sont là, t'as cassé les gens.
Exactement. Puis pour de vrai, ils sont très agressifs. Ah, hein? On part pas avec un de leurs buggy ou bien court plus vite qu'eux autres, là, trouve un truc. Parce que
c'est quoi les jeux, à part le tien, là, qui se sont démarqués, selon toi, à cette conférence du PAX?
Ah, écoute, il y a Hobbs de Runic Games, qui est ceux qui avaient fait Torchlight, Torchlight 2, justement. Hobbs, là, qui a été super, super bien reçu. Après ça, c'est sûr, les fans de Final Fantasy, Final Fantasy 15 est annoncé là. Donc, le monde n'y tripe pas au bout. De Montréal aussi, For Honors de Ubisoft,
oui, oui, oui.
Vraiment, qui était essayé là. Les files étaient tout le temps pleines.
D'ailleurs,
c'était capoté.
Ils vont venir ici faire une démo, d'ailleurs, très prochainement.
Bon, tant mieux. Il y a plein d'amis à moi qui travaillent justement pour ce jeu-là. Puis c'était vraiment le fun de voir ça. Mais tu avais aussi tout le retour de Rock Band qui était là, qui était toujours plein. Tu avais le jeu de South Park avec la machine que tu respires pour sentir les pets, ces affaires-là. Donc, au lieu de te mettre des lunettes de VR, tu te mets une espèce de pince-nez VR, je sais
mais là,
pas
c'est-tu juste pour la présentation, cette affaire-là, ou c'est
disponible? Pas tout, mais c'était drôle de voir les faces. Je pense que j'ai des images de ça, d'ailleurs, au travers qui se mettent à rouler. Mais en gros, c'est 80 000 personnes en 4 jours. Puis en ce qui nous concernait, nous autres, on avait aussi un pre-pax. Microsoft qui invitait une couple de personnes à Redmond. Vous êtes jamais à Redmond, on dit, c'est gros Microsoft, là, c'est 110 bâtiments sur un campus.
C'est une mini-ville.
On peut même pas imaginer à quel point hein? C'est gros. Quand tu arrives là, tu dis OK.
Ouais. Ah non, ça fait penser un peu au siège social d'Apple.
Oh, oui,
c'est aussi gros.
Ah, ouais. Puis il y a Google qui est à côté, il y a Nintendo qui est à côté, donc ça n'arrête plus d'avoir des mini-villes où c'est que tu te sens tout petit. Mais c'est une belle expérience. Fait qu'en tout, c'est 5 jours non-stop. Si vous allez présenter votre jeu là-bas, attelez-vous, arrivez pas tout seul. Si vous allez faire une petite pause pipi, des choses comme ça, c'est le fun d'être capable de faire des rotations.
Souvent, tu pisses le samedi puis tu retournes le dimanche.
Ben, c'est ça, c'est tout. Tes yeux jaunes puis tu t'endures.
Comme on voit, il y a le côté aussi jeu de table. C'est pas juste des jeux vidéo qui sont à PAX.
Non, c'est ça, oui. Il y a une grosse partie de jeu de table. On sent que c'est les clientèles, c'est des vases communicants quand même. Là. Mm-hmm. Il y avait même des games de Donjons & Dragons organisés dans des salles à côté, de cartes Magic, du Pokémon, bien sûr, qui était au travers de ça pour venir jouer. Puis c'est vraiment la fête. Là. C'est de voir l'hystérie, les gens, ça ouvre à 10 heures. Il y a une grosse file. Là, tu as les Enforcers qui s'appellent, c'est des bénévoles qui s'occupent comme de la loi et de l'ordre.
La
là-bas.
Sécurité.
Exactement. Donc, là, ils craignent les gens, là, ouais, make some noise. Puis là, ça crie, ça capote. Puis quand ils ouvrent les gates, ça se met à courir, coup de vers le
Lord préféré. Run!
C'est Lord of the Rings.
Ouais, Lords of the Ring, exactement.
Est-ce qu'il y a des invités?
C'est une belle folie.
Il y a des invités qui sont là, je sais pas, moi, des big stars.
Moi, j'ai vu PewDiePie passer.
OK.
Il s'en venait à mon boat, il a joué au jeu d'avant, puis il est reparti.
Non!
J'ai comme ma deuxième plus grosse peine d'amour à vie. Là,
est-ce qu'il a été...
Comme une déchirure intérieure. 50 millions de fans. Il fallait qu'ils viennent jouer à Mages of Mistralia. Puis si je dirais ce T-shirt, j'avais peur qu'il se rappelle de moi et qu'il me dise plus jamais.
Est-ce qu'il est entouré de ses gardes du corps?
Il y avait 3-4 personnes, mais c'était pas des lunettes fumées là, avec un Bluetooth dans l'oreille. Là. C'était juste des bons potes. Là, puis,
non, parce qu'il y en a qui se prennent au sérieux, hein, tu sais.
Il y avait Greg Miller de Kind of Funny Game aussi qui était là. Après ça, il y avait le créateur de Myst qui est venu justement voir Mages of Mistralia. Puis
très
il
cool.
dit ah, j'adore votre jeu et surtout le nom, tu sais, parce que Mistralia. Avec Pat, directeur créatif, mon associé, il leur a dit, je savais qu'on allait avoir cette conversation bizarre-là. On savait qu'il allait venir faire un tour. Fait que, et donc, il y a des vedettes là-dedans. Il faut savoir les reconnaître quand même, là, quand on est dans le milieu. Là, mais c'est tout qu'un événement, puis c'est un trip. Là, 4 jours de temps, sans arrêt. C'est tous les jeux. Et il y a qu'est-ce qu'on appelle là-bas du swag.
Il en donne du stock.
Oui, il en donne en tabarouette. Des T-shirts, des jeux, des disques, des crayons, des casquettes, des pins, justement, qu'on appelle les macarons ici.
On voit le kiosque d'Ubisoft qui est quand même assez imposant. Avec c'était quoi le jeu Forerunner, bien sûr, dont tu faisais...
Il y avait Forerunner, il y avait aussi Werewolf Within, qui est comme une reprise du jeu Loup-Garou de table, mais adapté pour la VR.
Ça a l'air d'être cool, ça.
Je l'ai pas essayé, mais les gens, les réactions, là, c'était écœurant. Ça a vraiment l'air la fun. Ceux qui ont déjà joué au Loup-Garou de table une soirée, vous comprenez un petit peu. Bon, ben là, ça peut être comme ça un peu, mais tu peux pas tricher, tu sais.
Non.
T'ouvres pas un œil croche là, pour voir un peu en attendant qu'ils disent vous dormez, gars, c'est blackout. Puis il y avait aussi là, l'autre Eagle Flight qui était là, une espèce de simulateur d'aigle que Ubisoft ont sorti, qui faisait partie. Ouais. Donc ils présentaient ces 3 jeux-là. J'étais bien fier. C'était tout fait à Montréal, ça.
Au niveau du VR, c'est ça, c'était pas mal présent. On voit ici le GeForce.
Oui, on voit que c'est poussé, justement. Ouais. Nvidia poussait du VR. Il y avait aussi le beau d'Intel qui poussait du VR. Ubisoft, bien sûr, qui avait du VR. Mais on en voyait un petit peu partout. une fois de temps en temps du VR. Là.
Et bien sûr, le e-sport était présent au PAX East également.
Oui, au moins 7-8 postes de e-sport, là, que c'était justement du MOBA, là, Multiple Online Battle Arena, où on avait aussi des tout simplement Street Fighter V qui était là, Tekken 7 qui était annoncé justement. Et voir ces gens-là jouer, faire des combats, c'est aussi le fun d'écouter un match de UFC. Là. C'est des athlètes de la manette. Oh, oui, vraiment, vraiment.
Des athlètes de la manette, j'aime ça. Je vais regarder ça, moi.
Écoute,
je vais regarder
ça. Un pro pour toi, Denis.
Dishonored 2 également. Est-ce que tu as eu la chance de le voir un peu?
Oui, oui, j'ai regardé. C'est sûr que j'avais moins de temps de jouer un peu. Écoute, on s'était parlé un peu avant que j'allais prendre des images. Donc, à un moment donné, j'ai dit à ma gang, désolé, je prends une pause, je vais prendre des images pour Talbot. Mm-hmm. Ils ont fait, OK, ben c'est pour Talbot, c'est correct, on te pardonne, tu peux quitter.
Vas-y.
Exactement.
Mais va pas à la toilette, par exemple, t'as pas le temps.
Tu te rendras pas.
Donc, des jeux de table, encore une fois.
C'est intéressant, c'est comme des gros robots géants qui se battent dans une arène fictive.
Oui, regarde ça, toi.
Intéressant, ça.
Ah, ça, j'aime ça. Ça sent beau dans mon sous-sol, ça.
Oui. Mais t'as déjà un personnage de Halo, là.
Ouais. Mais lui, il me semble grave, là. Je sais pas s'il passe les poils.
Vraiment, il rentre pas, Denis.
Ça, pour aller te border avant de te coucher.
Exactement. Oui. Donc... Donc, c'est une expérience que tu vas refaire, j'imagine.
Oui,
c'est
sûr. Il faut expliquer PAX West comparativement à PAX East. PAX West, c'est sur deux étages. Nous, on avait la chance d'être dans l'Indie Megaboot. Donc, pour des jeux indépendants, on n'est pas une équipe de 300 chez Borealis, on est 20.
Bien, Tribute.
Justement, Flint Hook, Tribute, j'ai fait exprès pour aller les prendre. Ça passe à ton émission, justement.
Bien, écoute, j'ai connu bien eux autres, puis son jeu est pas mal cool.
Oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Fait que c'est ça, eux aussi étaient dans les 10 mégabots, donc ça nous permet d'être sur le quatrième étage avec les gros joueurs. Mais sinon, tu te ramasses sur le sixième étage, si tu as de la chance, puis là, il y a moins de presse, il y a moins de monde un petit peu. Ouais. Tandis que Paxi, c'est plus intéressant. Fait que si je ne suis pas sur le quatrième étage, je ne retournerai pas. Ça m'a quand même coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars aller là. Donc,
c'est vrai que ça coûte cher.
Oui, hein? On est cinq, l'hôtel, le transport.
Ah, Bethesda, qui était là.
Oui, justement, et qui faisait aussi.
C'est le reflet de Bethesda. Je pensais que c'était écrit dans le pop. Bien sûr, on a fait allusion peut-être au jeu, leur jeu qui s'en vient, qu'on a parlé hier, Andromeda.
Oui, c'est Mass Effect Andromeda.
Sûrement
j'en ai parlé tantôt.
Ouais, oui, il va sûrement avoir une démonstration de ça.
Mais il était bien content du démo, en tout cas. Mm-hmm.
Qui c'est ça?
Yann.
Ben, je comprends qu'il était content.
Ben excité.
D'ailleurs, Yannick, qui nous a répondu comme quoi...
ça s'en vient.
Ça s'en vient, puis on a demandé d'être bêta-testeur là-dessus.
OK.
Fait que, il nous a répondu de façon très joviale, bien sûr. On va sûrement avoir accès. Moi, j'espère. Ça, j'ai hâte d'avoir ça. Et bien sûr, le Team Digital qui nous présentait Rock Band avec ses instruments de plastique qui, ma foi...
Encombre le salon.
Oui, bien, t'as vu, hein, j'en ai plein ici. Là, ça ramasse la poussière. Et t'avais
le cosplay, bien sûr. J'ai manqué la performance d'unicycle.
Oui, mais c'est qui ce monsieur-là avec le micro, tu sais-tu? Là?
Pas du tout.
Aucune idée. Ben, c'est un show de PV quelque
part. Un autre Star System différent du nôtre.
Et voilà.
C'est peut-être un Denis Talbot, un
américain.
Peut-être. On vient de voir passer M. Gilles Proulx à côté. Mm-hmm. Avec, et Éric Lapointe. Salut, Éric.
Salut, Éric.
Alors, voilà, c'est du cosplay, hein, bien sûr. Donc, intéressant. C'est ça, le fameux le truc de pet que tu parlais.
De pet, exactement, de South Park.
Je sais pas s'ils vont vendre ça pour le vrai. Penses-tu qu'ils vont vendre ça pour le vrai?
Aucune idée, mais je trouve ça hilarant. Je trouve que le coup de pub est parfait. C'est de voir la face du monde crocher quand il y a un événement.
Ça n'a pas de l'air agréable.
Ils ont peur à la prochaine odeur. Puis là, tout le monde les regarde. Ils sont en train de se dire pourquoi j'ai dit oui. Là, ça ne pas faire tout.
Celui avec les gros bras au bout, ça fait 20 minutes qu'il ne respire pas. Là. Il commence à être rouge un peu.
Il est juste mort.
Il est juste pas là, exactement. Donc, probablement, c'est un stunt publicitaire. Je pense pas que ce soit vendu, mais on sait jamais.
On sait jamais.
Ils sont tellement malades.
La modique somme de 3000 $
Oui, exact. Non, mais ça vient avec des réservoirs, tout ça. Merci pour les images. C'est très apprécié.
Ça fait plaisir, Denis.
Écoute, tu as fait un beau travail. Je sais que c'est pas évident de tout lâcher, d'arrêter de parler à tes fans qui veulent en savoir davantage.
Mm-hmm. Mais pour la cause.
Oui, exactement. Aïe, aïe, aïe. Peux-tu qu'on en parle tout de suite de ton jeu?
Ah, on peut bien, notre vidéo est prêt.
On va regarder ça tout de suite pendant que Benoît va nous dire comment ça a été, toi, du côté de Fantasia.
De Fantasia, ça a été une des meilleures expériences de ma vie.
C'est vrai.
Pour les gens qui ne le savent pas, j'ai travaillé là pour l'été. J'ai travaillé 3 semaines activement durant le festival, 3-4 semaines, mais je travaillais aussi un petit peu avant. Et j'ai non seulement fait de la gestion de communauté, ce qui peut être un peu fastidieux et des fois difficile, mais j'ai aidé, entre autres, à pousser pour que maintenant on fasse des entrevues sur Facebook Live, ce qu'ils ne faisaient pas avant, puis que j'ai l'impression que de plus en plus des festivals, des organisations vont mettre de l'avant.
Oui, c'est rendu à norme.
Puis ce qui a permis qu'on rencontre d'ailleurs plusieurs personnes qui sont venues au festival, qui ont pris le temps de nous jaser ça. J'ai rencontré entre autres Guillermo Le Toro, qui a fait entre Pacific Rim, Labyrinthe de Pan. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Super, hyper sympathique, très généreux de sa personne. À la fin du festival, j'ai rencontré Doug Brown, en fait Christopher Lloyd, qui a fait entre autres Doug Brown. J'ai rencontré...
J'aurais été un peu intimidé, moi.
J'étais très intimidé. On lui a demandé, durant l'entrevue, après l'entrevue, s'il pouvait faire une petite invitation. Tu sais, avec mon téléphone, j'ai demandé d'inviter les gens, faire une petite invitation Instagram, tout le kit. Fait que j'ai fait action à Christopher Lloyd. J'étais oh mon Dieu, tu sais, combien de fois tu peux faire ça dans ta vie, ça? Fait que plein de personnes comme ça, le fils de... Leonard Nimoy, Adam Nimoy qui était là, plein Takashi Miike qui était là également, un réalisateur japonais qui était un chouchou du festival depuis plusieurs années, mais c'était son premier passage. Donc à la fin, c'était une espèce de danse, tu reviens sur Terre.
Ah ouais, c'est
mais
ça.
Mais ça a été non-stop 3 semaines, j'ai travaillé à chaque jour, des grosses heures, mais j'ai vraiment aimé ça.
Alors voilà pourquoi tu n'étais pas ici, et je le comprends, au salaire que je te paye.
c'est quand même de la simple malte.
Ah ouais, tu viens te nourrir chez nous. Voilà. Merci beaucoup de cette publicité. C'était tout à fait gratuit. On a des belles images de ton jeu qui s'appelle comment, mon cher ami?
Mages of Mistralia.
C'est quoi l'inspiration de ce jeu-là? D'où ça part?
Hey, écoute, 2006, à l'université, avec mon ami Patrick Mondou, on veut faire un jeu dans lequel on va vraiment pouvoir se sentir un magicien. T'sais, on écoute des Harry Potter, Seigneur des Anneaux, des choses-là. Ils gribouillent une couple de formules, puis on dit, ben, ils doivent savoir ce qu'ils font eux autres. Puis ben oui, ça fait de la magie. T'sais. On laisse le bénéfice du doute. Là, on voulait vraiment être capable que les joueurs sentent, hey, je suis un magicien, je comprends la magie. Je peux faire la magie. Mais là, pour arriver à ça, comment tu fais pour faire de quoi que tu as assez de complexité, mais que c'est pas compliqué?
Ouais.
Ça, c'est la balance à tenir. Tu veux pas sentir que tu programmes pendant ton jeu, tu sais? Tu vas être capable de faire. Donc, ben, c'est sûr, en 2006, c'était un peu trop tôt, puis c'était un peu ambitieux. J'avais 26 ans, Patrick en avait 13, donc on pouvait pas... aller plus loin que ça là-dedans.
Oui. Je tiens à dire que ça coche un peu, c'est la machine là, qui rush un petit peu.
Oui,
là.
Parce que notre jeu va très bien.
Oui, ça, je tiens à te dire. Ça, c'est des images qui ont été transférées en catastrophe tantôt.
Oui, c'est ça. À dernière minute, faute d'ordinateur, on a amené ça. Donc là, c'est juste une partie du gameplay. Puis après ça, j'ai une autre vidéo où est-ce que je vais pouvoir vous expliquer le système de magie plus en détail. Mais bref, bon, je faisais partie, j'ai cofondé Artifice Studio. J'ai vendu mes actions d'Artifice Studio. J'ai fondé Jeux Borealis avec Patrick. On a décidé, OK, là, on le fait. En septembre 2014, on a commencé la production de Mages of Mistralia, une équipe de 9. Là, écoute, on va être rendu 20 au mois de septembre.
Quand même.
Donc, ça a monté un petit peu plus. Puis, écoute, c'est, ça va de mieux en mieux. Si, j'aurais dû vous amener des images du premier mois de production de jeu, de quoi que ça avait de l'air. On aurait eu tout qu'un fou rire. Donc, c'est assez spécial, la demande que j'avais faite au Fonds des médias du Canada, justement, pour du financement. Je vais le garder.
Parlez un peu de ça. Ça, c'est important. Les fonds, c'est pas évident de remplir ça. Puis c'est pour ça que c'est important de faire partie de la guilde. Pour rencontrer des gens comme toi qui ont passé à travers ces différents filtres-là. Tu vas te refuser les premières fois?
Non. Je suis arrivé premier au Canada.
T'es du sérieux?
Ben, non, pas vrai.
Je dis ça parce que c'est vrai, là, ça donne la même. Mais non, écoute, il en prend une dizaine là, sur au-dessus de 250, des fois 300 compagnies à travers le Canada. Donc, il faut que tu fasses fort. Mm. Puis, tu sais, c'est l'équipe, c'est l'innovation, c'est ces choses-là, mais c'est vraiment.
C'est un peu un processus de filtre aussi en même temps.
Oui, c'est ça, exactement. C'est... Ils ne peuvent pas donner de l'argent à tout le monde. On peut aller chercher jusqu'à 1 200 000 présentement.
Quand même.
Qui est 75 % du montant. Ça veut dire que toi, il faut que tu fournisses 400 000 pour être capable d'aller chercher ces 1 200 000 $-là.
Ouais.
Donc, ils se protègent quand même. Il faut quand même que tu mettes la main dans tes poches, c'est bien fait. Puis, il faut comprendre qu'on les rembourse. Hein. Ce n'est pas une subvention. Il faut les rembourser par la suite et ils gardent des équités sur ton jeu. Le FMC. Donc, faut quand même que tu, oui, le gagner, mais après ça, c'est pas un cadeau.
Faut que tu connaisses ton affaire.
Oui, c'est ça. Faut que tu partes là-dessus. Donc, on a gagné ça, puis on a commencé la production de Mages of Mistralia. Puis des super belles aventures. En cours de route, il y a Dan Adelman qui s'est joint à nous, qui est la personne qui a travaillé à créer le Xbox Live chez Microsoft de 2001 à 2005,
quand
qui a fait qu'on pouvait télécharger. Et de 2005 à 2014, c'était le Head Digital Content of America de Nintendo. Donc, Monsieur Nintendo qui a fait connaître Shovel Knight, World of Goo, entre autres, tous ces jeux-là. Okay, puis lui, ben, il était tanné d'être muselé un peu par Nintendo, puis il a dit, je vais aller aider les indépendants. Fait qu'ils choisissaient un jeu par année pour aider à sortir. Là, c'est Action Verge. C'était supposé en 2016 être Chasm, ils ont reporté. Puis là, ils ont choisi Mages of Mistralia pour la sortie 2017. Fait que c'était un bon coup de main qu'on a eu au travers de ça, en plus de monter. Puis l'autre série sur Sunday, ben Ed Greenwood, qui est l'auteur de Forgotten Realms, d'où les mondes Baldur's Gate et Neverwinter Nights, ceux qui savent ça. Le monsieur, il a vendu plus de 250 millions de livres dans sa vie. Fait que s'il a juste fait une pièce par livre, il n'y a pas besoin de nous autres. T'sais. On lui a envoyé le démo à Greenwood, puis on lui a dit, écoute, regarde notre jeu, on a vraiment, ouais, un bon Québécois, nailé comment faire un système de magie, ça fonctionne. Puis il a tellement trippé, il a dit, OK, les gars, j'embarque dans votre trip.
Ah oui, OK.
La question qui vient de Twitch, est-ce que c'est l'influence Wind Waker, un peu Zelda,
oui,
là-dedans?
On le cachera pas, là. Il y a toutes sortes d'influences là-dedans. On voulait faire un jeu qui pouvait plaire à un large public, là. Fait qu'on est allé cel-shading, mais on se l'est vraiment approprié. Là, on n'a pas juste glissé le shader par défaut qui vient dans Unity. Donc, on a travaillé dessus pour vraiment avoir notre teinte. Et puis oui, Wind Waker, c'était une de nos références, bien sûr. Torchlight aussi, Runic Game, qu'on aimait bien. Mm. La direction artistique qui est au travers de ça.
Tu peux-tu parler un petit peu du système de magie? Parce que moi, c'est un élément qui m'intéresse. Que, moi, je parle surtout de BD au show ici. Mm-hmm. Même dans les comic books, quand tu as un personnage qui est magique, comme Doctor Strange ou n'importe quel autre personnage qui a accès à de la magie, c'est tout le temps difficile pour un auteur de le mettre de l'avant d'une façon qui est intéressante. Parce qu'il faut que tu lui donnes des règles,
ouais,
mais en même temps, ces règles-là sont très floues parce que c'est de la magie, ça n'existe pas. Là, tu parlais tantôt de la mécanique qui est à la fois... qui servait le propos,
oui,
donc la magie, mais qui n'était, mm-hmm, pas trop restrictive. Peux-tu nous en parler?
Oui, absolument. Ben, j'ai une vidéo pour ça, justement. Dans le fond, au lieu de trouver notre boomerang comme dans Zelda, on va créer notre propre boomerang. Donc là, il y a quatre catégories de spells, comme on peut voir à l'écran. Il y a la mêlée, orb, ça, c'est invocation, et puis ça, c'est self. C'est les sorts sur soi. On a ça par défaut. Là, j'ai cheaté. J'ai tout... normalement, à ce moment-là dans le jeu, t'as pas
tout activé.
Donc là, orb, on a vu que ça faisait pas grand-chose. C'était juste une petite boule. Mais là, je vais aller chercher la rune move et je vais la connecter à mon core system. Donc maintenant, on a une balle de feu. Mon orb qui faisait rien se déplace. OK? Un peu basique, mais ça donne un peu l'idée. Là, on va rajouter une couple d'éléments là-dessus. Bon, on va mettre multishot. On en fait plusieurs. Après ça, on place bande. Ça va faire rebondir la balle. C'est mieux. C'est des comportements et homing.
C'est comme une mini-programmation.
Oui, exactement. Okay. Donc là, on est rendu avec trois boules qui rebondissent parce qu'on a rajouté ces comportements-là. Mais ça va plus loin que ça. Il y a cinq niveaux au travers du système de magie. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est que je rajoute un augment. Ça dépend où c'est que je le mets. Donc là, je l'ai mis sur ma rune de move. Donc là, l'augment, c'était left qui s'appelle. Donc, il courbe vers la gauche parce que je l'ai mis sur ma rune de move. Mais si je prends le même côté à gauche, l'augment gauche, je le mets sur mon multishot, là, au lieu, mon multishot, il est dispersé vers la gauche.
Okay.
Donc, ça dépend où est-ce que je vais le placer. Ici, je vais m'en va le mettre directement sur mon main core system. Là, j'étire complètement à gauche.
Puis ça, c'est-tu expliqué quand
Oui, au fur et à mesure, la courbe d'apprentissage est très, très courte.
Ah oui?
Okay.
C'est important parce que tu peux intimider des joueurs.
Là, je fais la totale. Là. Il en reste encore, ça a-tu bugué, Denis?
Ah, ça se peut, regarde. D'ailleurs,
on est reparti.
Oui, parce que moi, j'ai touché la souris.
Bien ça.
Mais je tiens à m'excuser d'ailleurs pour le fait que ce soit saccadé. Normalement, c'est pas comme ça. Désolé.
Donc là, on peut changer l'essence, bien sûr. Donc, passer d'électricité, de glace. On peut aussi tirer de la pierre. Et puis, dépendamment dans quelle des quatre catégories, parce que l'on est juste avec l'orb, mais il y a aussi mêlée, chaud, ça change les choses aussi, évidemment.
Il y a Karen qui veut savoir, Karen Rin qui veut savoir c'est quoi le nom du jeu, c'est
Mages of Mistralia.
Le jeu sort quand? Mike de course qui veut savoir.
Aux alentours d'avril, mais il ne faut pas le dire.
Okay.
Faut pas le dire à la presse parce que des fois, là, on annonce
trop tard,
ça. Là, j'ai fait mon self. J'utilise la même rune move que j'ai utilisée pour mon orb, mais sur mon self. Donc maintenant, c'est mon personnage qui se déplace sur moi plutôt que ce soit mon orb. Et si je réutilise le même bonus qui s'appelle Lef, ici comme ça sur moi-même, bien évidemment, mon personnage qui lag un petit peu parce que Denis a accroché la souris.
Non, là, c'est la machine c'est qui froche parce que...
La machine à tous.
Oui, à tous un peu.
OK.
Mais, regarde, je suis désolé.
Vous manquez le meilleur à la fin. Là.
Attends un peu, je vais leur partir, j'arrête,
okay, whop,
je repars et voilà, boum.
OK, regardez bien ça. Donc là, on va enlever ça et la cerise sur le Sunday, ce qui fait qu'on pète le 200 millions de possibilités de sorts. Là, je fais juste me créer un decoy, ça, les ennemis attaqueraient ça normalement.
Okay.
Un sort peut caster un autre sort, en appeler un autre à l'infini. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai quatre triggers en bas, Nested Room. On va choisir un tick, ça veut dire qu'on va faire le sort sur un certain tempo. Et là, je vais choisir l'autre sort qu'on a créé ensemble, qui était notre premier orb qu'on a fait.
Oui. Donc, peux mélanger des sorts?
Un sort peut en appeler un autre qui en appelle un autre. Donc là, je suis en train de faire le sort que j'ai fait tantôt avec le decoy, justement, qui était là.
Et c'est le decoy qui le fait.
Exactement.
Est-ce que c'est du tour par tour?
Quoi. Pas du tout.
Pas du tout.
Non, c'est un jeu temps réel à la Zelda. Exactement. Et là, j'ai remis la même augmentation left. Et là, mon decoy tourne en mettant ça et il continue. et je peux en imbriquer un autre encore par-dessus.
Mais ça, c'est génial. Ça fait que les gens vont pouvoir créer pratiquement n'importe quel.
Il y a des spells
que vous ne pouvez même pas imaginer. Là,
exactement. Ils relâchent leur créativité. Ça nous arrive tout le temps pendant la PAX. On a fait PAX 6. On a gagné d'ailleurs par Gamer Nexus, le meilleur jeu de PAX à ce moment-là. On était bien contents.
Bravo.
Il y a tout le temps des joueurs qui ils font des sorts, choses qu'on n'a jamais vues de notre vie. Puis c'est notre système, donc c'est capotant. Là.
Oui, question de Mike Leclerc qui veut savoir le nombre d'heures de jeu que tu estimes, toi.
Au moins 15 heures, mais si vous êtes des complétionnistes, vous allez en avoir jusqu'à 30. Puis là, le jeu, c'est pas juste le système de magie, là, c'est la grosse histoire, les boss épiques, on a 13 donjons, 3 gros hubs. Il y a du stock. Là.
Est-ce qu'on va pouvoir s'échanger des sorts? Parce que c'est une chose qui va sûrement être demandée.
On pensait à un système où est-ce que tu es capable, ça t'imprime un code, ou est-ce que si tu le mets sur un site web, quelque chose, ça te recrée.
Comme dans Mega Man 2.
Ouais, un peu. C'est ça, c'est en plein ça. Bonne référence, Benoît. Donc, on aimerait ça faire ça. Il y a encore des choses. On veut aussi intégrer le Twitch directement dans le jeu pour que tu sois capable de partager les sorts que tu as fait. Regarder comment j'ai fait ça, c'est quoi. Puis on rajoute encore du stock dans le jeu présentement. Il nous reste encore un 7-8 mois de production, donc il faut avoir d'autres. Mais je veux dire, juste sans les nested spells, il y a 2,4 millions de possibilités. Avec ça, on pète la calculatrice. Wow. Donc, on en a assez pour s'amuser. Puis, une super bonne histoire, là, un gameplay Zelda Nintendo. Borealis, dans le fond, c'est ça. C'est Nintendo avec une couche indie par-dessus.
Salut à Murex qui est là d'ailleurs ce soir. Il veut savoir si il y a du multijoueur éventuellement.
Dans la suite de ça, il va exactement avoir du multijoueur. On a commencé ce jeu-là multijoueur, puis on s'est rendu compte que pour faire un boss, par exemple, qui joue en 1, 2, 3, 4 joueurs, c'était comme faire un 2, 3, 4 boss. Fait que vu que c'est notre premier jeu, ben, on a décidé de faire un bon single player exactement comme Zelda. Sauf que, on pense soit sortir un DLC pour faire le choix, parce que la technologie est là, c'est juste qu'il faut mettre plus de temps sur le jeu. Ou, dans la suite, qui est une excellente idée, que je reviendrai vous en parler quand on sera rendu là, ça va être écœurant.
Là, on veut savoir également si ça va être disponible sur quelle console ou sur PC. Est-ce que tu peux en parler tout de suite?
Oui, il n'y a pas de problème. Ça va être PC, Steam, et après ça, les consoles les plus populaires. On va dire ça comme ça. Vous l'avez à la maison.
Donc, là, ce qu'on voit, c'est seulement la portion au sort. Je vais vous montrer la bande-annonce de ce jeu-là pour vous donner une idée de comment, justement.
Un petit peu plus.
On va regarder ça, tiens.
Mages can shape magic into whatever they want. They combine runes into patterns, just like constellations in the starry sky. And in this bewildering darkness, they're the valley's only hope.
Ça vous a valu des prix quand même, un prix...
Ça nous a permis de passer à l'E3, cette vidéo-là. Il fallait soumettre une vidéo professionnelle, on l'a fait exactement pour ça. Au PC Gamer Show, ils choisissaient 20 jeux, puis on a été choisis là-dedans.
Génial.
Ah oui, il faisait fête au village chez Borealis, pour vous dire. On a regardé l'E3 en direct, puis on regardait notre jeu passé. Non, c'était un beau moment. C'est des belles victoires, c'est le fond. On travaille tellement fort là-dessus. Les heures supplémentaires, et puis, il faut être un peu fou pour faire des jeux vidéo. Hein. On part avec un budget de millions qu'on va devoir quand même. Il y a environ 1000 jeux qui sortent en 2 semaines partout à travers le monde. Tu pars avec ça, il y a des gens qu'il faut qu'ils te suivent, ils disent faites-moi confiance, ça va vendre ce jeu-là, c'est bon, puis là tu pars là-dedans. Fait que chaque fois que tu as une petite victoire comme ça, que tu peux gagner, t'es super content. Ça, tu le prends pour de vrai, là, t'arrêtes d'être un t'es comme on le mérite, les gars, les filles, c'est fun. Là,
mais tu sais, ce jeu-là, tu sais qu'en Russie, il va sûrement être copié et vendu, puis tu vas perdre du cash au bout.
Non,
mais c'est important, c'est pas. C'est une réalité.
C'est vrai.
Mais tu veux, la Russie. Et ailleurs aussi, il n'y a pas juste les Russes qui copient, évidemment. Il y a du monde de chez nous. Quand j'ai l'ancien jeu que j'ai fait Artifice Studio, sans froid, ça n'a même pas pris 24 heures. Toutes les protections système étaient levées puis étaient parties. Mais apparemment, qu'en Russie, présentement, si on localise en russe, Il y a des gens qui vont chercher jusqu'à 20%
du marché.
De leur chef d'affaires. Okay. Oui, exactement. Des ventes de leurs jeux pour la version localisée en russe. Donc, c'est en train de changer la Russie, ce que t'en parles. Oui, ouais, c'est un beau marché. Donc, Mages of Mistralia sera localisé en russe.
Donc, on a une chance d'en vendre plus.
Salut à Moura Melondo, notre ami chez Ubisoft qui traduit en russe tous les jeux d'Indie à Montréal présentement. Salut Moura.
D'ailleurs, si on veut devenir membre de la guilde, qu'est-ce que ça prend? Comment ça coûte? Les gens me posent des questions, puis je n'ai pas ces détails-là. Est-ce qu'on doit payer un membership? Comment ça fonctionne?
Écoute, on est super gentil. Nous, qu'est-ce qu'on voulait faire? Bien, premièrement, il faut que tu sois une entreprise ou un travailleur autonome.
Okay.
Donc, ce n'est pas un individu, là. C'est vraiment ça. Et puis, on ne voulait pas mettre de barrière à l'entrée. On veut que la guilde serve à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est des parts sociales. C'est 150 $
quand
tu rentres.
Ouais.
Puis si tu t'en vas, bon, on te l'ordonne.
Chien, de même.
C'est chien. Pas de membership annuel du tout. Comment que ça fonctionne? Nous, c'est qu'on réussit à aller chercher des services, admettons, comme la comptabilité, les assurances, ces choses-là. On fait baisser les prix parce qu'on est une grosse gang. On fait baisser les prix, mais il y a quand même une cote qui revient à guilde. Fait que si tu es une plus grosse entreprise, tu vas prendre plus de services, ils sont plus avantageux que si tu étais toute seule et nous. Fait que tu vas donner plus d'argent à guilde par le fait même en ayant un rabais dans la vie, pas en sauvant de l'argent. Si tu es plus petit, moins. Fait que c'est comme ça que c'est égal pour tout le monde. Puis c'est là-dessus qu'on s'enligne. C'est une première au monde. On est bien, bien, bien fiers de ça. Et on est le plus gros groupe de développeurs de jeux vidéo au monde par le fait même, avec maintenant 98 studios membres. C'est quand même pas rien. C'est le fun. Fait que, puis on espère que ça va faire des petits dans les autres pays. T'sais. On veut que le monde s'approprie ça. À la gang, on est plus fort. Tout le monde dit ça.
Ouais. Ouais. Mmh. Fait que, mais j'ai reçu des courriels justement de nos cousins français qui étaient intéressés à la formule. Je pense que vous êtes en contact d'ailleurs pour ce genre de truc.
L'Australie aussi qui aimerait faire ça. Ouais, oui.
Intéressant. Écoute, juste que tu passes le message à ta gang d'artisans du jeu vidéo, là, que ce soit des jeunes studios ou des studios qui sont plus établis, je veux les voir ici, je veux qu'ils viennent nous présenter leurs affaires. Mais arrivez avec vos ordinateurs puissants cette fois-là, comme ça, parce que j'en ai des ordinateurs, mais ils sont occupés pour la diffusion.
Il y en a pas mal.
Hein?
Il y en a même pas mal.
Oui, il fait chaud d'ailleurs. Mm-hmm. Mais écoute,
je passe le message, il faut que ça devienne un réflexe, je pense, auprès du monde de la guilde. Écoute, on est chanceux, on a un média, c'est Radio Talbot.
Il n'y a pas grand monde qui vous donne un coup de main,
exactement. Non, c'est assez dur, surtout au Québec. Puis à l'extérieur, ben écoute, faut que tu frappes le jackpot pour avoir un peu de visibilité. Sinon, tu es complètement ignoré. On est enseveli et éclipsé par la quantité de jeux. Donc, il faut en profiter ici. Puis souvent, quand on a un bon jeu, ça prend juste une première personne qui en parle pour que ça fasse des petits, que le feu prenne, comme on dit, puis que ça parte ailleurs. Donc, oui, absolument. Puis
la bouche à oreille, souvent, c'est rien de mieux. Donc, tu restes avec nous, ça n'est pas fini. On va parler avec notre ami Benoît maintenant.
Hello.
Moi, j'étais content que tu arrives avec cette nouvelle-là. La gang de Mythbusters, en fait, quelques membres originaux de Mythbusters ont décidé de reprendre le collier parce qu'on sait que l'émission est malheureusement morte.
Oui, morte, mais après plusieurs années.
Ouais.
Mythbusters, c'est de 2003 à 2016.
J'aimais tellement
2016.
Ça, ce show-là. Moi.
C'était un des shows les plus écoutés sur Discovery Channel. Ça a été l'émission qui a été la plus longue durée de vie sur le poste américain. Ça a été traduit par des dizaines de langues aux États-Unis, mais dans le monde.
Ouais,
et là, il y a Beyond Production, qui est la compagnie derrière Mythbusters, qui ont repris trois de leurs anciens animateurs. On les voit en ce moment. On parle de Carrie Barron au milieu. On a Terry Bellucci à droite et Grant Emea, j'ai la misère à dire son nom, Emea, qui est à gauche, qui sont ceux qui étaient de la deuxième build team, donc la deuxième équipe de construction qui était sur Mythbusters, qui participe à un nouveau projet. Et le projet, c'est The White Rabbit Project. On voit le logo en ce moment. Ça va être diffusé sur Netflix à compter du 9 décembre prochain. C'est ni plus ni moins qu'une adaptation de Mythbusters. Ça tombe bien, ceux qui font le projet sont aussi ceux qui possèdent les droits pour Mythbusters.
Boom.
Il n'y en a pas de litige. Donc finalement, c'est qu'on va tester des mythes ou ce qu'on appelle des... des fois, tu arrives sur Internet, tu cliques des choses, un sujet.
Ouais.
Là, ça devient de plus en plus complexe. Et les gens échangent, ils se posent des questions par rapport à ce qui pourrait être fait. Donc, des mythes, mais qui sont plus urbains, qui vivent ou qui sont nés dans Internet. Donc, on va mettre à profit le talent de ces trois personnes-là qui ont fait, d'ailleurs, Mythbusters pendant plusieurs années pour tester et présenter finalement les mythes, et ça, ça a compté du 9 décembre sur Netflix.
Netflix, je suis content pour eux autres parce qu'ils vont chercher des licences normalement, et puis des licences qu'ils connaissent beaucoup de succès. Ils ont fait, au début, c'était plus n'importe quoi, mais maintenant, c'est très, très, très focusé de l'affaire, je trouve ça bien.
Disons qu'ils justifient leur abonnement qui viennent d'ailleurs d'augmenter de quelques dollars, mais je pense que ça vaut quand même la peine. T'sais, je veux dire, quand c'est rendu que Netflix ramène Full House, qui est un vieux show des années 90, que moi j'ai écouté à l'époque, qui on s'entend est très très fromagé, disons ça ainsi. ils ont de l'argent dans les poches. Moi je souhaite juste qu'éventuellement ils ramènent Firefly, qui est une série de What Josh Whedon qui était... ils ont expliqué à un moment donné pourquoi ils pensent que le fanbase est pas assez gros pour ramener Firefly, mais encore je sais pas, il y a comme un buzz autour de ça, au moins un TV movie ou un TV ou un film Netflix. Mais je trouve ça intéressant parce qu'à la base, quand les Mythbusters ont cessé leur activité en mars l'année passée, on leur a dit, seriez-vous intéressé éventuellement à revenir si le show est repris par Netflix? Là, on parle des deux grands animateurs. On parle de Jamie Adaman et... ils s'entendent pas super bien, d'ailleurs, ces deux gars-là. Mais les deux animateurs principaux. Puis, c'est peut-être possible. Ça n'a même pas pris 8 mois. Puis finalement, il y a un autre show qui s'en vient. Sans eux, par contre.
Ça marche,
ça. Ben non, c'est sans ce projet-là. C'est The White Rabbit, mais sans Jamie et Adam, finalement.
Il était tanné un peu, je pense que oui.
Ils ont fait le tour.
C'est Jamie ou c'est Adam? C'est Adam qui refait des armes, puis fait toutes sortes de trucs fantastiques, des costumes.
Exactement. Adam, ça a tout le temps été le tripeux des deux. Il fait un projet sur un site internet qui s'appelle tested.com, T-E-S-T-E-T-D. Et dans ce site-là, il va faire un podcast qui est hebdomadaire, mais aussi il va passer à travers toute son espèce de... son établi, il va créer des props, c'est un gars qui faisait des accessoires, des effets spéciaux à la base. Il va montrer comment il va recréer des costumes de certains films, le fusil de Blade Runner, plein d'affaires. Fait qu'il est bien occupé, il fait d'autres choses. Ça me surprendrait pas qu'on le voit éventuellement aussi à la télévision. Mais pour l'instant, le projet d'envergure de ces trois-là, d'ailleurs, qui avait été mis à la porte à l'avant-dernière saison.
T'es-tu sérieux? Avant la dernière saison.
Oui, on les avait mis de côté.
Ah, ouais.
On avait essayé de réorienter Mythbusters. Et la dernière saison de Mythbusters est probablement la moins bonne parce que c'était moins étoffé. On sentait qu'il y avait moins de budget et d'intérêt aussi de la part de la production. Ça a pris un angle qui était vraiment étrange. Finalement, ils sont revenus pour la dernière émission. Le show a été complété. Et là, on leur offre un prochain projet qui est The White Rabbit Project. C'est quand même... je trouve ça cool. Et nous autres, on va avoir accès à ça ici au Canada.
Et tu vas l'écouter.
C'est certain.
Bien certain.
Parlons un peu maintenant de ce nouveau Deathstroke. C'est-tu le même Deathstroke qu'on voit dans Arrow?
Non, c'est le même personnage.
Même personnage, mais c'est pas les, ils n'ont pas les mêmes... comment je dirais ça? C'est la même mythologie.
Exact. Mais c'est pas le même univers.
OK, c'est ça.
Contrairement à Marvel, l'univers télévisuel et de Netflix est lié à celui des films. Il y a un lien qui est narratif. C'est comme une grosse ligne du temps. DC Comics, qui est Warner Brothers, finalement, on fait ça différemment. L'univers cinématographique est contenu en lui-même et l'univers télévisuel est contenu en lui-même.
Maintenant, j'ai fouiné sur le compte Twitter de Monsieur Batman, comment il s'appelle?
Ben Affleck.
Et je suis sorti justement quelque chose qui est pas pire. C'est lui qui a mis ça en ligne.
Oui, la semaine passée.
Ça donne ce qui suit. Ça, ce serait le prochain Deathstroke.
Exactement. Ben Affleck qui va réaliser, qui est en train de réaliser, en fait, le prochain film de Batman.
Il joue dedans.
Il joue dedans. D'ailleurs, c'est le seul, en tout cas, c'est un des bons éléments du dernier Batman v Superman. Batman v Superman n'était pas très, très bon, mais c'est pas lui qui l'a réalisé. Je te dirais que le Batman de... D'après moi, oui. Le Batman de Ben Affleck...
Non.
Le Batman de Ben Affleck est un des points positifs du film Batman v Superman.
OK.
De mon humble avis.
Je l'ai pas écouté.
Pas ton temps. Donc, ce film-là, ça s'en vient, c'est réalisé par Ben Affleck. C'est co-scénarisé ici également par Ben Affleck. Et la semaine passée, on a montré cette vidéo-là de Deathstroke. Et c'était juste pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux fans de bande dessinée qui, d'après moi, sont comme moi, des commérateurs. Ils aiment bien ça, sortir des théories par rapport à leur personnage. Mm-hmm. Et on sait c'est qui l'homme derrière le masque. C'est Joe Manganiello, qui a entre autres joué dans True Blood et le film Magic Mike, où il jouait un stripteaseur. Beau bonhomme, très, très, très bien bâti. Et je trouve que c'est le parfait casting pour Deathstroke, qui, on le rappelle, est une espèce de mercenaire complètement... C'est un des hommes les plus dangereux de l'univers des DC Comics.
Okay.
Il y a des réflexes qui sont plus puissants, il peut se régénérer, il est plus fort également, et il est extrêmement intelligent, donc très manipulateur. Donc c'est un des personnages qui, dans les BD, comme à la télé dans Arrow, et comme il sera sûrement dans Batman, qui peut rivaliser avec le protecteur de Gotham. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je trouve que c'est un très bon casting. En plus,
on s'entraîne à même place.
Du Joker.
On s'entraîne exactement à même place.
Ah oui. C'est le haut à date qui est. C'est le bas, je ne le montrerai pas, là, mais le haut ici est entraîné. Donc, c'est intéressant. Puis, les gens qui sont intéressés, regardez un petit peu la biographie du personnage. On le voit d'ailleurs en ce moment. C'est un personnage qui a été créé dans les années 80 par Marv Wolfman et George Perez. Vraiment intéressant. Je pense qu'il va... Ça va être probablement un intéressant film de DC Comics. Je crois bien. J'ai foi en Ben Affleck.
Donc, si on résume un peu ses pouvoirs à lui, c'est que...
Bon, il se régénère un peu à la Wolverine. Ouais, okay. Il est plus rapide. C'est un expert en arts martiaux. C'est un excellent tacticien. Il peut contrôler n'importe quelle arme. Et en plus, c'est un mercenaire. Donc, c'est l'argent qui parle.
OK. Ça, là, il voit seulement d'un œil. C'est quoi?
Il voit d'un œil, mais il est quand même très, très dangereux.
Il voyait des deux yeux, toi, chose.
Tant mieux pour les personnages de DC Comics qui voient juste de la gauche. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Est-ce que tu penses que ça pourrait être sujet éventuellement à un film complet dédié à ce personnage-là?
Ça pourrait être intéressant. Ouais. Bon, on a vu avec Suicide Squad qui mettait en vedette des anti-héros qu'on essayait de mettre.
Quoi, si on fait de Green Lantern, ils vont bien faire lui.
Ils peuvent faire ben n'importe quoi. Là.
N'importe quoi.
Mais non, c'est ça. Tout est possible. Il pourrait faire un personnage, un film en le mettant en vedette ou une série de mettant
tant
en vedette.
Tant que c'est badass, on aime ça.
Tant que c'est bien.
Moi, je le connaissais pas, t'en parles, j'ai le goût de le voir. C'est bon.
J'ai hâte de le voir combattre Batman, d'ailleurs. Ça va être intéressant.
Est-ce qu'on va découvrir qu'ils sont des frères, c'est par naissance?
Je ne penserais pas. À moins qu'ils ont pris des libertés, ce qui est bien correct aussi. Je ne suis pas un puriste de BD, tu le sais, Denis.
Non, je le sais. Tu es quand même assez...
Ça ne me dérange pas.
Non, c'est ça. Les univers qui se mélangent et qui se rebootent.
Je suis un polyfan.
Polyfan, j'aime c'est ça. Eh, mon tabarouette. Parle-moi un peu de Mallrats. Je n'étais pas sûr quand j'ai vu ça.
Mais écoute, mais permets-moi un lien, Denis, vas-y. Avec mon été que j'ai passé à Fantasia. Ouais. J'ai rencontré Kevin Smith en personne. Il était de passage pour présenter Yoga Ozers, son dernier film avec sa fille, qui m'en venait de sa fille, Harley Quinn Smith, gars super sympathique.
Harley Quinn, c'est ça que...
Non, elle a 16 ans, Harley
Quinn. Non, je parle, non, son nom.
Harley Quinn, oui, c'est ça. Okay, c'est le personnage, le nom du personnage de Paul Dini. C'est le même nom.
Exact.
Donc, Kevin Smith qui lui présentait, c'est ça, son Yoga Ozers. Et il a fait un film en 21 ans.
C'est pas en 2009 qu'il a fait ça?
Non, en 95, qui s'appelait Mallrat. C'est un peu une suite dans l'univers de Clerks. Donc, il y a Silent Bob est là, ces personnages-là sont là, mais ça se passe dans un centre d'achat. Donc, ça fait longtemps que Kevin Smith parle de faire un 2. Il a écrit finalement un scénario et on sait que Kevin Smith est très, très, très verbeux. On l'a poché dans ce moment. Finalement, son scénario était un film de 5 heures. Ça marche pas. Je pense qu'un film de 5 heures, il va falloir qu'on le coupe. Il fait une série avec de 10 épisodes de 30 minutes chaque. Il n'y a pas encore une chaîne qui a pris le projet. Donc, ça se peut que ça soit autant sur le câble que sur Netflix, encore une fois. Parce qu'il va avoir un certain langage plus grossier. C'est les films de Kevin Smith.
Juste une seconde. Ça, c'est l'histoire de deux gars qui passent la journée dans un centre d'achat.
Comme les gens dans les années 90 faisaient, Denis. T'sais, avant qu'ils soient derrière leur téléphone. C'est ça que les jeunes faisaient, ça.
Est-ce que. Je faisais ça, moi, quand j'étais jeune.
Ah oui. Mais maintenant, ils font plus ça. Distance, tu peux pas parce que t'es dehors.
C'est ça. Mais nous autres, on allait à la place Alex Nillon parce que les filles étaient belles.
Ah, ben écoute.
Les filles étaient belles. Mais est-ce que c'est avec la même gang de comédiens?
Certains comédiens vont revenir. Ouais. En fait, Jason Lee va revenir, qui jouait le personnage de Brody, un des personnages principaux. Il n'est pas dans lui, il n'est pas là, mais tu vois, ça, c'est des personnages. Stan Lee qui va probablement faire un caméo dans la série.
Il
n'est
pas là, mais il est là, par exemple.
Jason Lee, tu m'as eu, mon maudit. Donc, la joke du pretzel, pour les gens qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas le spoiler, mais il y a une blague avec un pretzel et des doigts qui vont dans des orifices. Donc, ça sera à vous de confirmer la blague. On suit, en fait, le personnage de sa fille au personnage de Brody, qui, contrairement les gens à l'époque, allaient dans les centres d'achat. Maintenant, ils ne font plus vraiment ça, ça a l'air. Donc, Brody l'amène à un centre d'achat. Puis elle découvre cet univers-là qui est un microcosme. Ça a tout le temps été ça, les centres commerciaux gigantesques. Mm-hmm. Et c'est ça la prémisse du film. On va s'inspirer surtout d'une vibe à la John Hughes et Degrassi, qui est une série que Kevin Smith affectionne particulièrement, qui est assez bonne aussi. Il est fasciné par les Canadiens, Kevin Smith, je ne sais pas pourquoi. Il est très familial depuis quelques années. Il parle, sa fille est dans ses projets maintenant, mais c'est un gars qui est extrêmement sensible. Puis c'est ça qui veut amener à la série une sensibilité qui est familial. Donc, un récit authentique familial.
Donc, on
c'est comme ça qu'il l'a décrit.
On est à la recherche d'un diffuseur en ce moment.
En ce moment, peut-être sur Radio Talbot, je ne sais pas.
Netflix, man.
Probablement. Ça se peut.
Le temps file. Parlons un peu de l'univers cinéma de DC Comics qui est sur le point d'être chambardé complètement.
Chamboulé. C'est une nouvelle que j'avais faite, je pense, avant de partir pour mon exil. Une des personnes qui est en charge de l'univers consensuel de DC Comics s'appelle Jeff Jones. Et lui, c'est quelqu'un qui vient du milieu de l'édition. Il a écrit des bandes dessinées de super-héros pendant plusieurs années. Et avec John Berg, il est en charge maintenant de superviser tout l'univers cinématographique de Warner Brothers, qui finalement produisent DC Comics. Ce sont des compagnies qui sont sœurs. Et on a eu beaucoup de critiques par rapport aux films de DC dans les dernières années, que c'était sombre, c'était pas très bon, c'est très adolescent. Même si les films de Marvel sont adolescents, entre guillemets, il y a comme une qualité, je pense, au niveau de la production qui ne se retrouve pas dans les films de DC. Et récemment, durant une entrevue au Wall Street Journal, parce qu'on parle de beaucoup quand même d'argent qui est en jeu, on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de ce qui a été fait auparavant, Suicide Squad, Batman v Superman, Man of Steel. Il était d'accord de dire qu'il y avait beaucoup de lacunes dans ces productions-là, qu'on ait peut-être été trop fort sur le côté sombre, mais on n'a pas assez développé. Et ce gars-là, je vous le dis, moi, il y a quelques années de ça, il y a 8-10 ans de ça, c'était mon auteur préféré. Quand il écrivait des histoires, je m'empruntais à lire ses BD. Fait qu'il soit à la tête de cette division-là de la compagnie, je trouve que c'est très, très encourageant. En plus, il a co-écrit le film de Batman avec Ben Affleck et il a réécrit certaines sections du film de Wonder Woman avec Patty Jensen. C'est ça son nom, Patty Jensen. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est en fait l'équipe de Justice League. Et ce que Jeff Jones dit, c'est que dès Justice League, vous allez voir un changement de ton. On va commencer à adresser des choses.
Il se réajuste.
Et on essaie de se réajuster. Pourquoi Batman était aussi fou dans Batman v Superman? Pourquoi c'était une espèce de maniaque qui veut torturer? Puis, moi aussi, ça me déplaît pas, mais on va commencer à mettre des assises pour amener une certaine transformation. Moi, ça me parle. Encore une fois, je n'ai pas vu les prochains films qui s'en viennent. Donc, c'est intéressant. Si vous êtes un fan de BD qui avait été laissé froid par les différentes productions auparavant, peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans.
À suivre. Intéressant. Panne de BD comme ça, monsieur?
Panne de BD?
Non, pas tant que ça. Non, mais parce que je n'ai juste jamais trempé là-dedans. Okay. Il y a plein de monde qui sont BD. Je suis même temps rendu un éditeur de BD. On a une BD, Mages of Mistralia.
C'est vrai?
Donc, j'aurais pas le choix de m'y intéresser.
Tu viendras nous montrer ça quand ça sortira. D'autre part, on voit souvent des gens qui disent « Appelle-moi. »
Ouais.
Mais ça va être possible de le faire très prochainement.
Avec tes doigts?
Avec tes doigts. C'est absolument malade. Ça s'appelle Signal. C'est un projet Kickstarter. Le gars, il est comme ça, puis il parle dans son doigt. Fait que là, tu te dis, voyons donc, ça se peut pas. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est-tu une joke? C'est-tu une niaiserie? Non, c'est un projet qui existe, qui est en financement sur Kickstarter. Et tout de suite, je vous invite à regarder cette bande-annonce où on a justement fait de tests avec de véritables personnes dans la rue. Check bien ça, toi.
It's amazing.
It's amazing.
How?
I hear it, the sound's coming through.
Yeah, I like it.
It's so funny.
Well...
Allô?
Oh.
Et du reste, t'as pas de musique?
Yeah. Oh wow, that's really cool.
That's crazy.
En fait, il s'agit d'un bracelet qui probablement se sert de l'os de nos os pour transmettre le son directement dans l'oreille. Déjà, j'avais eu un micro comme ça qui fonctionnait. Tu mettais dans ton oreille et avec la mandibule, la mâchoire, on réussissait à entendre ce qui se disait, mais aussi transmettre de l'information. Et là, c'est un bracelet qui s'adapte, bien sûr, au monde, qui va éventuellement être disponible sur le marché si on réussit à avoir le financement.
La main doit te shaker pour que le sang passe au travers de ta main.
Tu
te grattes un peu l'oreille. Parle-moi donc, voir. Oups, c'est parti.
T'as plein de tirs sur le bord du doigt.
Ou attends un petit peu, tu mouilles le doigt. T'as un appel pour toi. Il veut te parler.
Il veut te parler.
Non, mais quand même, le principe est intéressant. Ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus. C'est disponible sur le Kickstarter. Regardez quand même, ils ont 3613 contributeurs qui ont donné 580 000.
Ils ont juste fait 580 sur
50 000. Ah, c'est pas pire.
Ben, ils ont besoin de vous, dépêchez-vous. Il y a seulement 29 jours. Ils ont fait 10 fois leur mise. Blague,
hey, non, moi, je pensais que c'est une blague quand j'ai vu ça.
La
non?
salade de patates, c'est une blague. Ils ont fait de l'argent.
Mais ça fonctionne avec les plus grands montres, smartwatch, avec... Le bracelet s'adapte et, bien sûr, se synchronise avec votre fameux téléphone qui va vous permettre, autant sur Android que sur iPhone, d'avoir des conversations à le doigt dans l'oreille.
Ça me dérange pas tant que ça de tenir mon téléphone versus me mettre un doigt dans l'oreille, mais c'est cool.
Fait que tu peux t'acheter ton téléphone iPhone à vraiment trop cher, plus le bracelet pour te
plus
mettre
ça. La montre.
Hey.
Ouais. Parce que tu vas être cool, t'achètes la montre aussi.
Hey boy.
Donc, ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus. J'ai pas le prix de vente exactement. On va aller voir comment ils vont vendre ça. Oui, Signal. Mais... 80
un montant qui te le donne.
Ouais, attends un peu.
Ah ouais, 100$ super early bid.
Ouais, t'as 100$, quand même pas si pire pour avoir le doigt dans l'oreille. Mais t'imagines les films d'espions dans le temps. Tu sais, les gars, ils parlaient, puis t'as des gros téléphones cachés, puis ah ouais, ouais. Là, c'est.
Il n'y a pas de fil.
Pas de fil, ça marche. Kickstarter, Signal, pas de I, pas de A sur Kickstarter. Allez faire un tour. Je vous le remonte encore, juste pour le plaisir de la chose. Pas ça, par exemple, on va te montrer ça, ça va aller bien mieux. T'as le beau réveil. Donc, voilà ce que ça donne. avec les bracelets qui s'en viennent, qui vont être disponibles très prochainement. Et ils font pitié, comme tu dis, ils n'ont pas fait... Ah, je ne suis pas en bonne place. Attends un peu, il fait noir comme chez nous. On fait ça de même, ça va... Et voilà, ça va mieux. Donc, ça va être disponible très prochainement. Et tout comme ces autres bracelets, je sais que Benoît, tu vas t'acheter ça.
Ah,
je suis certain que tu vas t'acheter ces bracelets-là.
Oh, oui.
Les Pokémon.
Ah, ça, peut-être.
Ah, tu vas l'acheter quand même.
Ben, je ne vais pas l'acheter, je le mets dans mes poches.
Pokémon Go Plus.
Ça tu vas le voler, dans le fond.
Non, je le mettrai dans mes poches. Je ne mettrai peut-être pas ça autour de mon bras.
Disponible. Tu, tu peux le mettre juste avec piné après ton sac aussi. Tu n'es pas obligé de le mettre.
Si tu veux,
tu peux le faire aussi. Mais ça, c'est Pokémon Go, donc un bracelet qui Go Plus va te permettre de détecter un paquet de petits Pokémon cachés à gauche et à droite. Et ça, ça va faire le plaisir de mon fils qui va sûrement vouloir une smartwatch, la watch d'Apple, la Watch Series 2, parce que oui, on pourra maintenant jouer avec. Pensez-vous que ça va aider à faire vendre des montres, ça?
Je ne sais pas si ça va aider à faire vendre des montres, mais c'est sûr qu'au lieu de sortir tout le temps ton téléphone, il y a des gens qui attendent ça. Là, tu vas pouvoir te promener, puis finalement, ça va dire ça va vibrer quand il y a un Pokémon dans les
parages. Oui, mais regarde ça, regarde la panoplie de couleurs selon ton allégeance. Hein? Tu es un bleu ou un jaune?
Moi, j'étais un bleu, pareil qu'il ne faut pas être un bleu, pareil qu'il faut être un rouge.
Ah, moi, je suis un bleu, puis un jaune et un rouge, les deux.
Non, moi.
Ça fait plusieurs comptes.
Mais c'est pour ton fils.
C'est pour mon fils, exactement, t'as tout compris. C'est pour fiston. Voyons, la caméra lâche tout le temps, on va l'avoir. Donc, il y a quelque chose qui vient de lâcher ici, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas grave, mesdames, messieurs. On est revenu là-dessus. Ah ouais, on a du fun. Écoute, le show est pratiquement fini, mesdames, messieurs. Je tiens à remercier les gens qui ont fait des dons ce soir, comme par exemple DePro 2001, qui nous a donné 10$. Également, ceux qui sont redevenus membres, il y a Ergo Québec pour un 20e mois. Et Philly, qui est devenu sub. Merci, Philly, d'être là. C'est très apprécié. Il y en a-tu d'autres que j'ai manqué? Il y a Étoine qui nous suit maintenant, Living Québec. Il y a DJ Q-Tips, j'aime son nom, qui est également un nouveau suiveux. Lenadon Souverain, merci d'être là. Samil, il y en a pas. Wat Mat Goustou.
C'est ça.
Et tous les autres qui sont devenus membres ce soir, merci beaucoup. C'est très apprécié. Je trouve ça très cool. Mon vieux, je te remercie de ta présence encore une fois. Et la prochaine fois que tu vas venir avec ton ordinateur. Je te parle à toi.
Ah,
là.
Moi, tu parles.
Ah, ouais. Avec ton ordi, avec ton jeu.
Absolument. Oh, oui,
puis,
je vous amène
on fait une démonstration, on fera un petit playtest en direct. Ça sera bien
c'est un rendez-vous.
Benoît, es-tu au rendez-vous la semaine prochaine?
On va checker ça mercredi prochain.
Et moi, je vais être là, mesdames et messieurs. Je suis là le mardi, mercredi et le jeudi. Venez faire un tour. Si vous nous écoutez sur Facebook, devenez membre de twitch.tv/radio-talbot. Ça nous donne un sacré bon coup de main. Mm-hmm. On est sur Patreon également. Ça vous tente de nous encourager. Ou tout simplement, écoutez, ça vous tente, un petit 2$, ça nous aide à faire un petit bout de chemin. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci également aux gens qui nous suivent comme ça de façon quotidienne. Merci à tous mes modérateurs. Salut tout le monde. Passez une belle soirée. Et on se retrouve demain peut-être pour un playtest. Salut.
Bye. Salut.
Enfin, vous avez trouvé la maison de vos rêves. Maintenant, il vous faut négocier l'hypothèque.
Tout ouvert ou fermé.
Quel prêteur choisir?
Où avez-vous mis le numéro du notaire déjà?
Ah oui, l'assurance hypothécaire en plus. Concentrez toutes ces étapes en un seul endroit. Votre conseiller.net. Du notaire aux assurances, évitez de vous y perdre. Nous vous accompagnerons dans votre processus d'acquisition avec un réseau de professionnels multidisciplinaires. Gagnez du temps et retrouvez tout sous un même toit. Votre Conseiller.net, une équipe jeune et dynamique, signée Yann Sénéchal.
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous, radiotalbot@gmail.com.